France Culture.
Bonjour Abdelatif Lahabi.
Bonjour.
La poésie est invincible, c'est pas moi qui le dis, c'est le titre d'un recueil de vous paru en 2022 au Castor Astral. Puisque nous sommes quittés sur ce point d'ancrage que peut être la poésie à l'épisode précédent.
Oui, hier vous parliez dans ma condition d'arabe errant de ce point d'ancrage qui est l'écriture, la poésie au centre de cette expérience d'écriture. Mais il y a un autre point d'ancrage important qui est tout simplement l'amour. L'amour incarné en une femme. Mais un amour qui ouvre sur d'autres acceptions de l'amour, qui n'exclut pas. L'amour, pour moi, est une ouverture sur toutes les amours qu'on peut concevoir, qu'on peut percevoir. Donc, ce qu'il y a pendant toutes ces décennies, à partir d'ailleurs de façon plus forte de mes années de prison, tout cela, eh bien, ça a été ce lien-là. Ce lien qui a constitué aussi un roman en soi. Parce que c'est un amour qui a, pour exister, pour persister, il a fallu qu'il se réinvente, il a fallu qu'il se remette en cause, il a fallu qu'il... C'est comme une plante, un arbre dont on doit prendre soin. Devenir, par exemple, jardinier, un jardinier de l'âme, pour être à la hauteur de cet amour-là.
Moi, j'avais prévu dans cet épisode, qui est le dernier de nos Avoies Nues, de parler donc de la poésie. Et dans cette poésie, il y a nécessairement l'amour, puisque c'est un vrai fil rouge de votre écriture, de fait, et de votre vie, vous l'avez bien dit, mais aussi de votre écriture, au point que dans Presque Rien, qui est un recueil paru en 2020 et qui a été réédité en 2025, vous évoquez les trois piliers de votre humanité, l'aimer et eux, l'ami et le poème. Mais je n'oublie pas l'autre pan de votre poésie, qui est le monde, qui est la condition humaine, ou même parfois son versant en vers, qui est l'inhumaine condition, et que vous exprimez par la fureur, par la profération. Donc votre poésie, elle est double. On parlait de dualité dans les épisodes précédents, mais il y a une célébration inconditionnelle de la vie dans votre œuvre, et ses principaux fils sont l'amour et le monde. C'est ça qui vous constitue en tant qu'être vivant aujourd'hui, vous diriez ?
Oui, tout cela est vrai. Mais je ne sais jamais où me situer personnellement. Dans ces romans, comme l'exil, l'amour, le lien que j'ai avec la condition humaine, le lien que j'ai avec la vie, tout court, tout cela, on n'en tire pas les fils. C'est pas que moi qui tire les fils de tout cela. J'ai l'impression que ça me dépasse. Que parfois je suis perdu aussi, parce que j'ai un corps, j'ai une conscience de sismographe, je dirais. Sismographe dans quel sens ? Bon, mon sismographe, il est en lien avec la condition humaine, justement, avec ce qui menace justement notre espèce, avec ce qui peut bouleverser totalement la condition humaine. Et donc, cela influe. Ma vie, notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Surtout pas. C'est un fleuve impétueux, c'est un fleuve qui change de cours en permanence. Et par conséquent, on doit être vigilant, on doit être en alerte permanente. Je parle du poète comme un veilleur de la condition humaine. Donc, il ne s'agit pas de s'adapter. J'ai horreur de l'adaptation. Il s'agit de capter et de voir, de ne pas, dans cette course frénétique vers le changement, vers le ne pas être un traînard, mais être justement quelqu'un qui reste dans la réalité dans laquelle il vit. Quand on avance en âge, on devient certes plus fragile, c'est évident, mais en même temps, il y a autre chose qui je parle, par exemple, dans un de mes derniers livres, de l'insolence de la vieillesse. Il y a une insolence de la jeunesse, mais aussi il y a une insolence de la vieillesse, parce qu'on n'a plus rien à perdre, en quelque sorte. On a laissé derrière soi tous les tabous, toutes les précautions. On est prêt à remettre en question, voire en cause, un certain nombre de choses auxquelles on a cru dur comme fer dans le passé. Au moins sur le plan, c'est-à-dire intellectuel, de se dire, j'ai cru à un moment à telle chose, eh bien, réexaminons tout cela. Voyons dans quelle mesure j'ai pas pris le bon chemin. On a ce droit-là, sur sa vie.
Vous parliez de l'amour comme point d'ancrage, et comme point immuable, il y a justement dans votre poésie une dimension extrêmement présente, enfin actuelle. C'est-à-dire qu'on voit bien dans votre poésie à quel point vous vous nourrissez de ce qui se passe. Dans « La poésie est invincible », par exemple, qui est apparu au début des années 2020, il est question de la mort, de la vie, de l'assassin de Samuel Paty, de ce qui nous unit, d'un ami en prison, de l'identité, des animaux. Et dans les derniers recueils, par exemple, « La terre est une orange amère », vous parlez précisément du corps et de la vieillesse, vous parlez de l'hôpital, vous parlez du rire, vous parlez de l'Ukraine. On voit bien que voilà, votre poésie fait aussi feu de tout bois, et que c'est une poésie du et au présent.
Oui. Je crois que la poésie a accompagné l'aventure humaine depuis les origines jusqu'à nos jours. Elle continue à accompagner cette aventure. Et cette aventure, même si elle s'arrête à un moment, elle aura vécu. Et donc, la poésie aura témoigné véritablement de ce vécu-là. Comment l'être humain a commencé à ressentir, à se rendre compte qu'il était un être humain, qu'il était vivant, que certaines choses le faisaient bouger de l'intérieur. Les interrogations, c'est-à-dire, les questions que l'être humain s'est posé depuis les origines, qu'il a tranché dans un sens ou dans l'autre, sous forme de Dieu unique ou multiple, ou tout simplement en s'éloignant de cela. Donc, je crois que elle est invincible dans ce sens où l'être humain en a toujours eu besoin et a toujours besoin d'elle. C'est pas la poésie écrite en tant que telle. Quand je parle du cœur qui bat plus fort, à un certain moment, pour une raison ou pour une autre, on est dans la poésie. Quand on est bouleversé par quelque chose, on est dans la poésie. Lorsque quelque chose nous révolte au point de nous arracher des larmes, on est dans la poésie. Lorsque on découvre qu'un être humain qu'on a connu ou qu'on vient de connaître va compter énormément dans votre vie, on est dans la poésie. Voilà pourquoi elle est invincible, parce que elle est liée à ce qui fait que la vie a un sens et que nous la préférons à la mort.
J'entends aussi dans Invincible le fait que peut-être rien ne peut l'arrêter.
Oui, parce que quand on médite sur l'histoire de l'humanité, même si les peuples pendant des décennies, voire des siècles, parfois, se soumettent tout simplement à l'ordre établi, aux tyrans, tout cela, eh bien, subitement, une étincelle arrive, et puis brusquement, le peuple devient peuple. Alors qu'auparavant, il n'était rien du tout.
Mais ça veut dire que la poésie aide à ça ? Parce que la langue aide à ça ?
La poésie, bien sûr, elle accompagne de toutes les manières. On sait très bien ce que la poésie, dans l'histoire de plusieurs peuples, comment les poètes ont pu jouer un rôle pour qu'il y ait une véritable résistance contre l'oppression, contre les injustices, tout cela. Beaucoup de poètes ont donné d'eux-mêmes, ont donné leur vie parfois, ou de longues périodes d'incarcération. Je pense par exemple à mon grand frère turc Nazım Hikmet, qui a été emprisonné pendant plus de 20 ans. Mais Nazım Hikmet est devenu le symbole de la résistance du peuple turc. Il est là, il est invincible. Aucun tyran ne peut se hisser à la cheville de Nazım Hikmet. Je trouve que le poète, c'est en même temps le grand frère de ceux qui souffrent. C'est celui sur l'épaule duquel on peut poser sa tête.
Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent la poésie? Est-ce que parfois vous n'arrivez pas à écrire?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours eu une frayeur, disons, une grande frayeur. Et quand je termine un livre, par exemple, je ne suis pas sûr de pouvoir écrire de nouveau. Ça a été ma terreur pendant toute ma vie et jusqu'à aujourd'hui. C'est terrible. Il m'arrive parfois de ressentir une chose étrange. Après avoir terminé un livre, il se passe une semaine, un mois, je ne sais pas quoi, etc. Et j'essaie de nouveau d'écrire. Je n'arrive pas à construire une phrase. J'ai l'impression d'être analphabète. Tout simplement. Donc, il y a cela, cette frayeur qui est là. Heureusement pour moi, elle ne dure pas très longtemps. Il m'est arrivé qu'elle dure 6 mois, 8 mois au maximum.
Mais c'est pas une suspension de l'inspiration du poète à cause d'un événement, d'un air du temps, d'un monde qui se délite.
Elle provient.
Cette angoisse de la page blanche, c'est autre chose là que vous décrivez.
Elle peut provenir de plusieurs choses. D'une part, on a le sentiment parfois qu'on a déjà tout dit. À quoi bon? Moi, je suis terrifié par la répétition, par exemple. Si jamais je trouve un texte qui ressemble à un autre texte que j'ai écrit, je suis malade. Il y a aussi, par exemple, quand il y a des événements très lourds qui se passent au niveau de la condition humaine, etc., on n'a plus de voix. Et puis, subitement, un jour, je ne sais pas pourquoi, eh bien, ça vient, ou ça revient.
Est-ce que dans ces cas de panne sèche, de feuilles blanches, de suspension de la parole du poète, le rire, qui est quand même aussi un des traits immuables de votre œuvre, et d'ailleurs de votre être, parce qu'on vous a beaucoup entendu rire au long de ces 5 épisodes, Abdelatif Lahabi, est-ce que le rire vous aide? Je dis le rire parce que dans votre œuvre, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, beaucoup de dérision.
Oui, je suis passé d'abord par la dérision pour arriver au stade suprême, dire, qui est l'autodérision. Et ça, c'est délicieux. Moi, je pense que quand on parvient à l'autodérision, il y a là un délice ou des délices dans le travail de l'écriture. C'est ce jeu de miroir avec le double ou le triple, d'ailleurs, parce que c'est là où intervient le triple avec l'autodérision. Et c'est pas anodin. C'est-à-dire que si on est capable, justement, de rire de soi, eh bien, il me semble qu'on est parvenu, on a atteint ce qu'on appelle la tolérance. C'est une vertu, je dirais, que de ne rien se pardonner, en quelque sorte. D'être conscient de ses limites, de ses tares, de ses tics, de ses aveuglements, de son manque de rigueur, enfin, de tout cela. Et on n'en fait pas un drame non plus, parce qu'on rejoint tout simplement l'humaine condition.
Parfois, il vous arrive dans votre œuvre de céder à ce que je pourrais appeler l'incertitude. On a parlé du principe d'incertitude, hein, qui est un titre de recueil en 2017, mais la lassitude aussi, tout un poème qui s'appelle Las. Le pessimisme, parfois. Bon. Est-ce que ce que vous faites à côté de votre œuvre principale, la poésie, l'autre œuvre principale qui est la traduction, Abdelatif Lahabi, je veux parler de l'écriture pour la jeunesse, puisque vous avez aussi écrit des contes, Saïda, et Les voleurs de soleil, J'atteste contre la barbarie en album jeunesse, et puis deux anthologies illustrées en 2021, Ce que le poète désire et Ouvrons l'œil du cœur. Est-ce que ces contes-là pour la jeunesse, est-ce que le fait de parler à la jeunesse, c'est aussi retrouver un espoir ou affirmer une foi en l'avenir, malgré tout?
Oui, aussi peut-être les initier un petit peu à nos propres interrogations, sans réponse. C'est-à-dire, il y a, au bout d'une vie, maintenant je viens d'atteindre les 83 ans, les grandes questions que je me suis posées à un certain moment ont changé de terme parfois, etc. Et puis, il y a des questions nouvelles qui ont surgi et des questions sur lesquelles je n'ai aucune emprise. Je n'ai pas le moindre début de réponse. Alors, face à cela, face à ces mystères, à ces énigmes qui sont celles de la vie, de cette trinité de la vie, la mort, l'amour, face à ce mystère absolu qu'est l'univers, à des notions comme l'infini, le temps, tout cela, et malgré les avancées foudroyantes de la science qui ont élargi nos connaissances sur ces questions, eh bien, j'ai l'impression qu'on mourra tous idiots.
Voilà. Pendant longtemps, Abel Atif Lahabi, pendant 8 ans et demi, vous avez été privé de vos enfants. Vous les avez vus de temps en temps, vous leur avez beaucoup écrit et vice-versa. Est-ce que ce que vous n'avez pas pu vivre avec vos propres enfants à cause de la prison, vous le vivez aujourd'hui avec vos petits-enfants? Est-ce que vous avez le sentiment de vous rattraper, de peut-être de retrouver une âme d'enfant, puisqu'on était sur les enfants avec eux?
Bon, je vais dire des banalités, tout le monde le sait. C'est que les parents, les plus belles relations qu'ils peuvent avoir, c'est avec leurs petits-enfants. C'est pas avec les enfants. Avec les enfants, bon, il y a les difficultés, les conflits qui peuvent surgir, les incompréhensions.
Les fardeaux qu'on leur fait porter.
Oui, enfin, les coups qu'on se porte mutuellement. Enfin, mais avec les petits-enfants, bon, tout cela disparaît. Il n'y a plus que l'émerveillement. Et c'est vrai qu'avec mes petits-enfants, je suis dans un... Maintenant qu'ils sont grands, hein, c'est pas, ils sont plus tout petits, mais je les ai, eux, suivis depuis leur naissance jusqu'à... Maintenant, j'ai un petit-fils qui a 30 ans, et la cadette 27 ans, et puis j'ai une deuxième génération de petits-fils de 15 ans et 16 ans. Et donc là, j'ai vécu effectivement une très belle expérience, parce que je crois que la vie m'a offert quelque chose qu'elle m'a retiré à un certain moment. Elle m'a offert justement une autre occasion de pouvoir accompagner des êtres humains depuis leur naissance jusqu'à mon départ.
Aujourd'hui, vous vous dites homme au foyer, ça vous va très bien, Abdel Atif Lahabi. Alors, à quoi ressemble la vie du poète homme au foyer? Qui peint aussi? Tiens, nous n'avons pas parlé de la peinture, parce que vous vous êtes mis à la peinture. Vous avez même fait une exposition au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Rabat en 2024. Un catalogue en atteste, un poète passe. Puis il y a aussi un petit musée portatif qui existe avec vos poèmes.
Oui, être un homme au foyer, je pense que ça permet de dépasser cette guerre effroyable entre les deux composantes de l'espèce humaine. Sont les femmes, les hommes, voilà. L'homme au foyer, c'est une expérience vraiment qui devrait se généraliser, je dirais, parce que le conflit perpétuel est loin d'être terminé. Bon, bien sûr, les femmes, par leur combat, leur prise de conscience, ont beaucoup avancé dans l'obtention d'un certain nombre de droits pour reconquérir leur pleine dignité en tant qu'être humain, disons, mais le chemin est encore long pour elles, mais pour les hommes aussi. On oublie souvent dans ce combat des femmes que il y a quelqu'un qui accompagne ou n'accompagne pas cette marche, cette longue marche, mais qui peut se trouver à un certain moment de cette marche commune dans une plus grande fragilité. On le sait bien que aujourd'hui beaucoup d'hommes ont un problème d'identité, ils ne savent plus à quoi s'en tenir. Et donc, je pense que l'émancipation de l'être humain, de l'espèce humaine, nécessite aussi une marche, une longue marche particulière des hommes à la conquête de leur humanité. Et cette conquête de leur humanité intégrale ne peut passer que par la reconnaissance pleine et entière de la dignité de leur compagnon ou de leur compagne. Donc c'est un combat qui ne s'exprime même pas encore aujourd'hui, parce que on est concentré sur une cause imminente, importante, vitale, de la libération des femmes, leurs droits, leur dignité, tout cela. Mais on ne pense pas à l'autre partie de l'espèce humaine qui est en train de tituber, de ne pas savoir où aller. Moi, très franchement, aujourd'hui, si j'avais à choisir entre être une femme ou un homme, j'aurais préféré être une femme. Oui, absolument, parce que je sais contre quoi me battre exactement, quoi revendiquer, quoi être en tant qu'être humain. L'homme, être homme, c'est pour le moment, cette partie de l'humanité ne se pose pas de façon, avec une grande acuité, ces questions-là. Donc, je crois que les femmes devraient donner un petit coup de pouce aux hommes dans ce combat-là.
Vous parlez des enfants, vous parlez de ce qu'on lègue. Dans le livre imprévu, à la fin, vous vous demandez de quoi vous avez hérité Abdelatif Lahabié et vous écrivez « Nulle chose matérielle, mais l'humilité, le souci des autres, le don où l'on n'attend pas de celui à qui l'on donne la monnaie de sa pièce, le contentement du peu, et une dernière que j'ai failli oublier alors qu'elle est peut-être la plus importante, le plus difficile à acquérir, la capacité du pardon.
Oui.
Est-ce que vous avez pardonné? À qui, à quoi avez-vous pardonné?
Oui, je crois ne pas avoir d'ennemis, tout simplement, du moins à ma connaissance. C'est-à-dire la haine, c'est quelque chose que j'ai réussi à extirper de moi, parce que la haine est constitutive de notre personne en tant qu'être humain. Mais c'est un long combat qu'on doit mener justement pour extirper de nous ce poison-là.
Se débarrasser de la haine, c'est une chose. Pardonner, c'est aller encore plus loin.
C'est vrai que c'est... Bon, parfois, le pardon, c'est une notion un peu vaste, je dirais. Il y a parfois des choses qui nous font mal, parce qu'on a eu un comportement qui nous a fait mal, etc. Même parfois avec des gens, avec des amis ou des choses comme ça. Ne parlons pas des bourreaux, enfin, des tortionnaires, tout ça, parce que bon, c'était de pauvres mecs, ceux qui m'ont mis à la question. C'était de pauvres individus. Enfin, bien sûr, je leur ai pardonné. Mais c'est avec plutôt des gens qui vous ont accompagné à un certain moment de votre vie, où vous avez cru que c'était pour la vie, puis vous découvrez que c'est pas tout à fait cela. Là, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que, parler de pardon, j'aime aussi mettre à côté du mot pardon, le mot de fidélité. La fidélité, pour moi, c'est un parangon. Vraiment. Parce que ça touche à l'amour, ces choses-là. C'est-à-dire, pour moi, l'amitié, c'est la même chose que l'amour. Donc, si quelqu'un que j'ai aimé, je découvre chez lui quelque chose qui me révolte, j'ai du mal. J'ai du mal, il me faut du temps. Il me faut du temps pour oublier. Et donc pardonner. Déjà, le fait de s'éloigner, c'est une forme de pardon. C'est-à-dire de ne pas être dans le conflit, tout simplement. Quand il y a quelque chose qui vous blesse véritablement, c'est de s'éloigner et d'ouvrir par conséquent le chemin au pardon.
Avant qu'on termine ces entretiens, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de nous lire à votre tour un poème, parce que j'en ai lu quelques-uns, mais on a vraiment très envie d'entendre votre voix lisant un poème, Abdellatif Lahabi. Mais j'aimerais vous demander comment vous vient un poème. Est-ce que vous êtes au rendez-vous chaque matin? Est-ce que vous vous attelez à la tâche, puisque vous disiez que parfois vous avez l'angoisse de la feuille blanche? Est-ce que ça arrive comme un séisme intérieur? Est-ce que vous vous donnez des contraintes, des vers, des rimes, de longueur? On trouve de tout dans votre poésie. Donc,
je suis un rond de cuir de l'écriture. Heure fixe. Le matin, je travaille le matin. Et pour moi, je l'exprime d'ailleurs, quelque part, c'est comme un rendez-vous amoureux. Je suis là, je suis dans l'attente, je suis comme, je ne sais pas, comme une plante qui attend que la pluie tombe. Souvent, je ne suis pas déçu. Et puis chez moi, ça se passe relativement très vite. Un poème, par exemple, son secret, c'est le mot d'ouverture et sa chute. Dès qu'il y a le déclic du premier mot, eh bien, je ne sais pas, c'est comme... Bon, les autres mots sont comme des petits canards qui suivent la mère canard. Ils suivent. Et c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, je suis quelqu'un de très, très... organisé, l'écriture. C'est le matin, effectivement, mais ça peut m'arriver... de temps en temps, dans n'importe quelle situation où quelque chose me vient, je l'écris. Dans le train, par exemple, oui, ça arrive. C'est comme ça que j'ai eu une série de poèmes, il y a déjà il y a longtemps, que j'ai écrit sous le titre « Poème tombé du train ».
Et donc parfois c'est court, parfois c'est long.
Disons, la forme du texte peut varier. C'est bon, un petit texte peut aboutir vers quelque chose de très conséquent, ou alors c'est presque un aphorisme qui reste tel que.
Alors j'ai sous les yeux, Abdellatif Lahabi, un certain nombre de livres ouverts. J'ai fait moi-même une petite sélection de poèmes, mais alors vraiment, si vous avez envie d'en lire un vous-même, oui, N'hésitez pas.
Ben, je demanderai juste une pause pour prendre mes lunettes.
Bien sûr.
Alors, on y va. Que voulez-vous donc? Je me le demande. Que le poète vous rende meilleur que lui? Qu'il vous innocente et s'accuse de vos méfaits? Qu'il se remplisse de haine à en exploser afin de vous en libérer, qu'il s'arrache le cœur, un rein, un œil, pour en faire don à la banque des organes qui vous font défaut, qu'il se mette à plat ventre pour que vous le regardiez de haut quand vous êtes à genoux. Que voulez-vous, je me le demande? Peut-être rien. Après tout, vous voulez juste que ce fou furieux cesse de vous jeter des cailloux, qu'il aille prêcher dans un autre désert que le vôtre, que la belle et si confortable routine reprenne le dessus, que la langue soit réduite à ses plus simples expressions, passe-moi le sel, ta gueule, cliquez, fuck, 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 et tout est dit.
Un grand merci, Abdellatif Lahabi, pour cette lecture et pour ces 5 entretiens.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Abdellatif Lahabi, réalisation Asia Weber, prise de son Hervé Dubreuil, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.